Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Débrief. Merci de s'intoniser CILS FM 107,9 à Victoria. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h pour ces 60 minutes d'information. On a 11 degrés à Victoria actuellement à 16h en ce mercredi 19 octobre. C'est notre collaborateur Denis Lépine qui prend l'antenne tout de suite avec ses bulletins d'actualité pour quelques minutes. Je vous retrouve après pour la météo détaillée. On enchaînera ensuite avec le bulletin de l'ONU et bien d'autres actualités. En interview, en fin d'émission, je rejoins le chroniqueur et blogueur Régent Beaulieu qui nous livre ses impressions et son analyse sur les suites du jugement de la Cour suprême de Colombie-Britannique dans le dossier de l'éducation en français. On l'appelle aussi le jugement Russell. Restez à l'écoute, cet entretien avec Monsieur Beaulieu sera diffusé vers 16h40. Bonne émission. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. L'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, s'est prononcé sur la course à la Maison-Blanche. S'exprimant devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'ancien chef conservateur a dit qu'il est illusoire pour Donald Trump de penser qu'il peut déchirer l'accord de libre-échange nord-américain. Il s'est dit aussi inquiet de voir la possibilité qu'Hillary Clinton remporte le scrutin de novembre. Il a précisé que la démocrate s'est rangée derrière les idées de Bernie Sanders, idées qu'il a qualifiées de farfelues. La prochaine phase des essais cliniques pour le vaccin contre le virus Ebola commencerait cet automne. Cette phase a été initialement développée par l'Agence de santé publique du Canada. Elle comprendra la mise à l'essai du vaccin sur des volontaires séropositifs pour l'infection au virus VIH. L'étude sera gérée par le Réseau canadien de recherche sur l'immunisation. Des sites d'essai seront établis à Ottawa et Montréal, de même qu'au Sénégal et au Burkina Faso. Les premières vaccinations canadiennes devraient avoir lieu en novembre et des essais commenceront en Afrique l'an prochain. Jeff Zwick, commandant de la flotte canadienne du Pacifique, a fait une déclaration alors que le NCSM Vancouver vient d'arriver à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Il a dit que les discussions se poursuivront entre le Canada et le Vietnam. Il a mentionné également que des activités seront entreprises pour favoriser la bonne volonté entre les deux pays. Le NCSM Vancouver est au Vietnam dans le cadre de l'édition 2016 de l'exercice Westploy. L'administration canadienne de la Sûreté du transport aérien a annoncé qu'elle avait renouvelé ses ententes de services de contrôle aux aéroports avec l'ensemble de ses fournisseurs pour une période de 5 ans. L'entente se chiffre à plus de 2,5 milliards de dollars. Angus Watt, président et chef de la direction de l'administration, a dit que le renouvellement permet de continuer à mettre l'accent sur les réussites antérieures et de poursuivre la collaboration avec les fournisseurs de services de contrôle et les partenaires du secteur. En appliquant les options de renouvellement, l'administration pourra prolonger la durée de ses contrats jusqu'au 31 mars 2022. Politique américaine, eh bien, dernier débat à la présidence ce soir et ce troisième face-à-face aura lieu à l'Université Nevada à Las Vegas. Le modérateur sera Chris Wallace de Fox News. Les dossiers qui ont marqué les débats antérieurs, soit l'économie, l'emploi, les affaires étrangères et l'immigration, seront abordés. Les courriels d'Hillary Clinton et les enregistrements controversés de Donald Trump pourraient aussi se retrouver à l'avant-scène. Une étude sur l'indice Femmes au travail 2016 de la firme PricewaterhouseCoopers révèle que le Canada fait bonne figure face aux autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économique. La firme souligne cependant qu'il y a encore matière à amélioration. Karine Forward, associée à la firme, a dit que le Canada a réalisé d'importants progrès pour ce qui est de la diversité au travail, mais il peut faire mieux concernant l'égalité des sexes. La ministre de la Condition féminine, Patty Adu, a dévoilé l'identité des 6 récipiendaires des prix 2016 du gouverneur général en commémoration de l'affaire Personne. Il s'agit de l'universitaire Cecilia Benoit et de la bénévole Lucia Lorenzi, toutes deux de la Colombie-Britannique, l'universitaire ontarienne Anna-Louise Crago, les journalistes Pascal Navarro et Jane Profit, respectivement du Québec et de la Nouvelle-Écosse, et de l'activiste communautaire de Winnipeg, Diane Redsky. L'affaire Personne fait référence, rappelons, à ces 5 Canadiennes, dont l'auteur Emily Murphy, qui avait obtenu en 1929 la reconnaissance des femmes comme personnes à part entière au sens de la loi au Canada. L'aviation royale canadienne confirme la conclusion de la mise à niveau de ses appareils CC-130 Hercule. Il est question de changement au niveau des capacités de navigation, de communication et de maintenance. ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a précisé qu'il sera possible pour le Canada de maintenir ses opérations de soutien de la paix à travers le monde. Au sport, au baseball majeur, série de championnats dans la Ligue américaine, victoire de Toronto 5-1 contre Cleveland. Les Jays ont évité l'élimination. Le match numéro 5 aura lieu aujourd'hui en fin d'après-midi. Dans la nationale, maintenant victoire de Los Angeles 6-0 contre Chicago. Les Dodgers viennent de blanchir les Cubs 2 matchs de suite. Et le match numéro 4 sera disputé ce soir. Les Dodgers mènent la série 2-1. Au hockey maintenant, Ottawa défait l'Arizona 7-4, Montréal 4, Pittsburgh 0. Calgary 4, Buffalo 3 et victoire d'Edmonton 3-2 contre la Caroline. Ce soir, 2 rencontres à l'affiche. Toronto à Winnipeg et Détroit sera à New York pour affronter les Rangers. Et dans la NFL, eh bien, les Steelers de Pittsburgh ont confirmé que Ben Roethlisberger ne sera pas du match de dimanche face à la Nouvelle-Angleterre. Le quart arrière des Steelers a subi une intervention au genou et pourrait être à l'écart du jeu pour 3 semaines.
C'était les bulletins d'information de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous quotidien en info du lundi au jeudi. En fin de journée, on va jeter un petit coup d'œil à la météo. On a actuellement un ciel couvert, pluvieux sur Victoria. Il fait seulement 11 degrés et ça reste pareil pour les prochaines heures. De la pluie intermittente jusque vers minuit. Probabilité de vent important aussi dans la nuit, minimum de 9. Pour demain jeudi 20 octobre, 15 degrés maximum, de la pluie encore. Et ça se poursuit vendredi 21 octobre, une probabilité d'averse qui restera élevée à 60%, maximum 12 degrés vendredi. Et ça semble pouvoir s'éclaircir pour la journée du samedi 22 octobre. C'est ce que nous annonce Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Une belle journée samedi, donc mélange soleil-nuage avec un maximum de 12 degrés. La pluie serait de retour le dimanche 23 octobre selon les prévisions émises par Environnement Canada. Donc au moins une journée sur deux avec du soleil durant le week-end. On va prendre ce qu'on peut prendre finalement. Les jours ont été pluvieux dernièrement, donc samedi on aura du soleil, on peut retenir ça et peut-être faire des projets de sortie. Alors on se rend tout de suite au bulletin des Nations Unies, on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce nouveau journal de la Radio des Nations Unies. Avec à la une l'entrée en vigueur imminente d'une trêve humanitaire au Yémen, le manque d'unité palestinienne constaté par le Conseil de sécurité, le fléau des centaines de mercenaires qui pillent la République centrafricaine. Nous parlerons également d'une importante avancée pour la vaccination des enfants. Enfin, notre invité est le maire de Montréal, Denis Coderre, qui participe à Quito à la conférence des Nations Unies sur l'habitat. On commence donc avec le Yémen où les armes pourraient se taire à partir de ce jeudi à la faveur d'une trêve de 72 heures annoncée par l'ONU. S'ils saluent cette initiative, les organismes humanitaires sur place espèrent que cette cessation des hostilités sera renouvelée pour permettre la livraison de l'aide aux millions de personnes vulnérables dans ce pays. Les précisions d'Alpha Diallo.
Alors qu'un cessez-le-feu de 72 heures doit entrer en vigueur ce mercredi à minuit au Yémen, les organismes humanitaires espèrent que cette trêve épargnera de nouvelles effusions de sang et permettra d'étendre la livraison de l'aide humanitaire. Lors d'un point de presse téléphonique, le coordinateur humanitaire de l'ONU dans ce pays souligne que cette cessation des hostilités permettrait aux Nations Unies et aux agences humanitaires de fournir des vivres et des médicaments. Selon Jamie McGoldrick, les organismes humanitaires espèrent donc un accès libre et sans entrave partout au Yémen. Et la priorité sont toutes ces localités accessible, notamment à des zones d'Aden, mais aussi dans la province de Sada et surtout à Taïz. Autre attente des humanitaires, lever les restrictions sur les voies d'approvisionnement dans les différents ports du pays, mais aussi à l'aéroport de Sanaa. Jamie McGoldrick souhaite aussi que cette cessation des hostilités de 72 heures soit reconduite, car sur le terrain, la situation humanitaire est toujours préoccupante. Une épidémie de choléra est ainsi apparue, avec une 20aine de cas confirmés et plus de 340 cas suspects signalés dans les provinces de Sanaa, Aden et de Taïz. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
À New York, le Conseil de sécurité a fait le point ce mercredi sur la situation en Palestine, réunion au cours de laquelle le coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient a souligné que l'unité palestinienne est critique. Nikolaï Mladenov a notamment indiqué que les restrictions imposées par Israël ont pratiquement bloqué toute interaction sociale, culturelle ou économique entre les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie et que ce gouffre menace la viabilité même de l'établissement d'un État palestinien. On l'écoute.
Ceux qui croient que le peuple de Gaza peut être puni par des fermetures ou en imposant des restrictions sur l'entrée de matériaux de construction qui sont essentiels pour l'économie doivent prendre conscience que la tension monte à Gaza. Je serai également, on ne peut plus clair, envers ceux qui construisent des tunnels, tirent des roquettes, font du trafic de matériel militaire, profitent du marché noir ou qui cherchent la confrontation. Leurs actions sont dangereuses et irresponsables. Ils volent leur propre peuple et mettent en péril autant la vie des Palestiniens que des Israéliens. Nous devons éviter de marcher les yeux fermés vers un nouveau conflit violent, à un moment où la région a besoin que les forces modérées s'unissent et s'érigent contre la radicalisation en cours au Moyen-Orient. L'avenir de Gaza est inextricablement lié à l'avenir du peuple palestinien et son objectif d'établir un État indépendant. Mais plus longtemps sa population continuera de souffrir sous le poids intolérable des dynamiques actuellement en cours à Gaza, plus les Palestiniens s'éloigneront de la réalisation de cet objectif et plus nous nous rapprocherons de la prochaine grave escalade.
La présence d'un, voire de plusieurs milliers de mercenaires en République centrafricaine menace la stabilité du pays. C'est ce qu'a affirmé le groupe d'experts sur les mercenaires de l'ONU à l'issue d'une visite de 10 jours dans le pays. Le groupe s'est rendu à Bangui et Bria, ville diamantaire. Les mercenaires et combattants étrangers sont originaires du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Soudan. Ils profitent de la fragilité actuelle du pays pour piller les ressources naturelles. Les experts appellent donc le gouvernement à agir. On écoute l'une des expertes du groupe, Patricia Arias.
Étant donné que les richesses minières du sous-sol centrafricain, telles que les diamants, l'or, l'uranium et le pétrole, continuent d'attirer des éléments étrangers dans le but d'exploiter ces ressources de manière illégale, il est essentiel que les gouvernements centrafricains mettent en place un système de sécurisation des sites miniers et un mécanisme transparent de gestion des ressources naturelles.
Enfin, 6 fournisseurs de vaccins vendront 2 fois moins cher des doses de Pentavalent, un vaccin qui combine 5 antigènes. C'est le fruit d'une nouvelle coopération de Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, et de l'UNICEF avec le milieu pharmaceutique. Ces doses acquises, dont le prix passera de 1,65 $ à 79 cents, permettra de sauver des millions d'enfants dans les pays en développement. Auréliane Guyen, directrice du développement du marché à l'Alliance mondiale pour les vaccins.
C'est un vaccin qui protège contre 5 maladies. Ces 5 maladies sont diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et HIB. Donc on a 6 producteurs qui vont fournir ce vaccin au pays Gavi à travers l'appel d'offres d'UNICEF. Et pour nous, c'est un très bon résultat parce que on a une base de producteurs qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait avant. Dans le monde des vaccins, on a le problème qu'il y a très peu de producteurs. Et donc, ça a créé un environnement compétitif où on a en même temps suffisamment d'offres pour satisfaire la demande des pays Gavi et on a réussi à avoir un prix qui est très compétitif. Cette année, on paiera une moyenne de 1,65 $ par dose. Il faut 3 doses pour protéger un enfant. Et pour la période de l'appel d'offres entre 2017 et 2019, le prix moyen sera de 79 centimes de dollar.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité. Le 21e siècle sera basé sur les villes et non sur les pays. C'est ce qu'affirme le maire de Montréal, Denis Coderre, par ailleurs président du groupe Métropolis, un groupe qui rassemble des villes fortes de plus de 1 million d'habitants. Denis Coderre qui s'exprimait il y a quelques heures à la conférence Habitat 3 organisée cette semaine à Quito en Équateur. Matthew Wells lui a demandé si l'adoption du nouvel agenda urbain adopté par la conférence allait vraiment faire une différence dans la réalisation des objectifs de développement durable.
Montréal a mis sur pied un bureau de ville intelligente. On a mis sur pied tant au niveau de notre propre gouvernance, au niveau des services comme le déneigement chez nous, politique de stationnement, de trouver aussi des outils pour la mobilité, faire en sorte qu'on travaille de façon de données ouvertes, parce qu'aujourd'hui on parle du big data, donc c'est de s'assurer que les gens puissent voir, tant au niveau de la gestion des contrats, que la livraison des services, puissent voir de façon extrêmement transparente tout ce qui se passe. côté de Montréal. Et ça devient intéressant parce que on a une stratégie de start-up, on a une stratégie avec des jeunes qui développent des applications qui vont permettre justement d'avoir des gens qui deviennent aussi des acteurs de changement. Donc, Montréal est une ville créative. Montréal est une ville qui est à l'avant-garde. On a d'ailleurs été sacrée cette année la ville intelligente par excellence. Mais chez nous, vous voyez, en plus, Montréal est une ville onusienne, une des 8, ville olympique, ville de grande diversité où ça fait partie de notre ADN. Alors, le fait de travailler de cette façon là, avec faire des ponts avec les gens, avec tout le monde. Ça permet d'avoir justement une capacité de remplir les objectifs d'Habitat 3, entre autres.
Montréal a toujours été désigné comme étant l'une des villes les plus agréables du monde. Quelle est votre vision pour la ville au cours des 20 prochaines années et pour la rendre plus durable?
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne définit plus le monde en termes de pays ou en termes de continent, mais en termes de villes. D'ici 20 ans, vous allez avoir 70 % de la population qui va se retrouver dans les villes. Donc, vous avez non seulement à l'intérieur les plus grands défis, les plus grands problèmes, mais c'est aussi un laboratoire exceptionnel où on y trouve toutes les solutions. Donc, la question de gouvernance, d'avoir les capacités tant en matière du vivre ensemble, que j'appelle l'équilibre entre l'ouverture et la vigilance, avoir les outils d'inclusion, assurer que l'on puisse avoir de nouveaux milieux de vie, parce que là, maintenant, toute la question de mobilité durable, la question d'atteindre les objectifs de la COP21 demande une réorganisation et de retransformer la vie urbaine, mais c'est pas juste de transformer physiquement la vie urbaine, c'est aussi en termes de culture et en termes de gouvernance. Et les gouvernements nationaux doivent s'assurer de démontrer que les villes sont incontournables dans la capacité de régler et d'atteindre les objectifs.
En termes de développement urbain durable, quels sont les défis majeurs auxquels votre ville est confrontée?
Alors, Montréal fait partie de ces villes, c'est une plaque tournante, c'est l'Europe en Amérique, deuxième ville en importance pour les étudiants étrangers en Amérique du Nord, deuxième ville en importance au niveau du corps diplomatique, du corps consulaire en Amérique du Nord, la première étant New York. On a donc cette capacité tant sur le plan du Think Global que Act Local. Comme on dit, on pense globalement, mais on agit également localement. Donc, on met beaucoup l'accent sur l'électrification. Montréal a une chance extraordinaire. Nous avons au Québec l'hydroélectricité. Donc, de changer, de transformer notre ville par l'électrification. Donc, on envoie des messages très, très clairs là, de transformer des autoroutes en boulevards urbains et tout ça. Donc, Montréal est vraiment une pépinière exceptionnelle qui va permettre de pas juste de dire ce qu'on doit faire, mais de le faire effectivement.
Quelle est la chose la plus importante que nous puissions faire aujourd'hui afin de rendre les villes plus vivables et durables?
Je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est de s'assurer que chacun arrête de protéger son petit territoire. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Tous les niveaux de gouvernement, tous ceux et celles qui ont un rôle à jouer, secteur privé, secteur public, la société civile, on doit tous tendre la main et assurer à tous les niveaux d'appliquer la déclaration de la COP21. Donc, c'est sûr qu'en passant par les gouvernements locaux, qui est le plus proche de la population, qui est inclusif, qui a le pouls de la population et des enjeux locaux, tout va se faire au niveau des villes et nécessairement, on a besoin d'assurer que partout on comprenne que être autonome, c'est pas d'être à part entière, c'est d'avoir la capacité d'être un vrai partenaire et d'obtenir des résultats.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
C'est sur cette interview du maire de Montréal, Denis Coderre, que l'on reprend l'émission. L'info se poursuit dans le débrief. Vous écoutiez à l'instant le radiojournal des Nations Unies. On passe aux nouvelles provinciales de Colombie-Britannique. Je vous parle tout de suite d'un dossier chaud, le dossier de l'éducation en français. On a un article qui paraît dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui. C'est sous la plume de Julie Landry. Ça s'intitule « Les écoles francophones en Colombie-Britannique sont-elles utiles pour freiner l'assimilation? » Le conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a argumenté dans son procès qui l'opposait à la province qu'un système adéquat d'écoles francophones contribuerait à ralentir l'assimilation. Mais dans son jugement du mois dernier, la juge Russell a laissé entendre qu'il y avait peu d'espoir pour la communauté francophone. Le texte est écrit par Julie Landry. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission lors de l'interview que m'accorde le chroniqueur et blogueur Régent Beaulieu. Donc restez à l'écoute, ce sera vers 16h45. Le texte de Julie Landry se poursuit ainsi. Tous les experts s'entendent pour dire que le taux d'assimilation en Colombie-Britannique est l'un des plus importants au pays, à plus de 70%. Pendant le procès, l'ancien directeur de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, Rodrigue Landry, a été appelé comme témoin expert par le Conseil scolaire francophone pour parler de la réalité de l'assimilation et de l'importance des écoles pour la vitalité des communautés francophones. La juge Laurel Russell est d'accord avec cet expert, Rodrigue Landry, pour dire que les écoles sont des établissements importants pour la vitalité des communautés francophones. Mais, à son avis, il est peu probable que ces écoles aient un impact important sur le taux d'assimilation en Colombie-Britannique. La juge a repris les arguments de la province qui soutient que la communauté ne peut se régénérer que par des naissances plus nombreuses et par un nombre accru de nouveaux arrivants francophones. Si les écoles de la minorité, a écrit la juge, peuvent rendre la vie de la communauté francophone plus vibrante, elles ne peuvent pas augmenter les taux de naissance ou l'immigration par magie. Les écoles de la minorité pourraient ralentir la vague d'assimilation, mais elles ne feront que prolonger l'inévitable. Donc voilà, c'est l'avis de la juge Russell dans ce jugement de plus de 1600 pages, rappelez-vous, qui a été rendu le mois dernier, en septembre. La juge a tenu à préciser dans son jugement que la croissance exponentielle de l'éducation en français en Colombie-Britannique entre 2000 et 2015 n'avait pas eu d'impact significatif sur les taux d'assimilation des francophones. Donc, ces propos, ces points de vue ne sont pas partagés, vous le devinez, par tous les membres de la communauté francophone. Le directeur de l'Observatoire international des droits linguistiques est interrogé dans cet article de Julie Landry. Il s'appelle Michel Doucet, c'est un juriste du Nouveau-Brunswick, un Acadien. Il n'est pas d'accord avec cet avis de la juge Russell et trouve surprenant qu'elle s'exprime ainsi, puisque, selon lui, de l'avis de tous les experts, les écoles sont effectivement des vecteurs qui servent de rempart contre l'assimilation. Je vous cite les propos de Michel Doucet rapportés dans cet article. Les experts et même les décisions des tribunaux antérieurs ont toujours conclu que l'école était un moyen d'enrayer l'assimilation d'une communauté. Donc voilà l'avis de Michel Doucet, directeur de l'Observatoire international des droits linguistiques, avis qui est rapporté dans ce papier paru sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui sous la plume de Julie Landry. On en reparle plus tard dans l'émission en interview avec Régent Beaulieu. On va vraiment approfondir cette question de l'accès à l'éducation. On va aussi s'interroger sur les possibilités d'un appel de la part du Conseil scolaire francophone. Est-ce que le Conseil va choisir de faire appel de la décision de la juge Russell? On en parle plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on poursuit le bloc provincial. Le NPD promet des gardes à 10 $ par jour en Colombie-Britannique. Le nouveau parti démocratique, le NPD de Colombie-Britannique, promet d'instaurer des garderies à 10 $ par jour en Colombie-Britannique s'il est élu aux prochaines élections provinciales de mai 2017. Le chef du NPD, John Horgan, dit que les parents ont un mal fou actuellement à faire garder leurs enfants pendant qu'ils travaillent, car les prix des garderies sont hors de leur portée. Dans un communiqué émis cette semaine, la formation politique provinciale affirme que les frais de garderie sont la deuxième dépense des jeunes familles en Colombie-Britannique, juste derrière les dépenses associées au logement. On tourne les pages du journal La Presse. Je vous mentionne un petit article paru dans La Presse sous la plume de Vincent Brousseau-Pouliot. En fait, c'est une nouvelle qui paraît un peu partout dans les médias aujourd'hui. On y parle cette fois du nouveau parti démocratique, le NPD, mais le NPD fédéral, donc le NPD à l'échelle du pays, celui qui est mené par le chef Thomas Mulcair actuellement. Mais Thomas Mulcair, on le sait, va bientôt abandonner son poste. C'était une des conséquences de la défaite du NPD aux élections de l'année dernière. Donc cet article de La Presse signé Vincent Brousseau-Pouliot nous apprend que qu'un nouveau candidat, le député Peter Julian, c'est un Britanno-Colombien, a signalé son intérêt. Donc, il souhaite succéder à Thomas Mulcair. Il démissionne d'ailleurs de son rôle de leader parlementaire du NPD afin d'explorer la possibilité, dit-il, de participer à la course à la direction du NPD. Il en a fait l'annonce cette semaine sur sa page Facebook. Peter Julian est un député bilingue, nous signale cet article. Il représente la circonscription de New Westminster Burnaby en Colombie-Britannique depuis 2004. Il est la première personne de la formation NPD à annoncer son intérêt pour la course à la chefferie. Le NPD choisira un successeur au chef Thomas Mulcair à l'automne 2017, donc dans un an exactement. Plusieurs candidats potentiels, dont le député québécois Alexandre Boulris et le député de Colombie-Britannique également, Nathan Cullen, de la circonscription Skeena-Bulkley Valley, ont décidé de ne pas se lancer dans la course à la direction et ils ont invoqué des motifs familiaux. Alors, pour le moment, c'est uniquement Peter Julian dans l'arène. Il est le seul à avoir déclaré son intérêt. Rappelez-vous, on avait reçu ici au débrief, il y a peut-être 5 ou 6 semaines, le député de Victoria, Monsieur Rankin. Il avait répondu à nos questions et il avait notamment indiqué qu'il ne se présenterait pas, donc il ne soumettrait pas sa candidature au membership du NPD et qu'il ne souhaitait pas devenir le chef de cette formation. Donc pour le moment, il n'y a que Peter Julian dans cette course, mais il est encore très tôt. Le parti va désigner son successeur, son chef, dans un an exactement. On parle d'une autre formation politique fédérale, cette fois du Parti conservateur dont il est question. Le Parti conservateur a lui aussi perdu son chef, puisque Stephen Harper a perdu l'élection l'année dernière. Donc, le poste de chef du parti est en jeu. Et il y a déjà des candidats qui se bousculent, ou peut-être pas se bousculent, mais se présentent. On apprend dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui que 2 candidats de la Colombie-Britannique se lancent dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Il s'agit de l'ancien député fédéral Andrew Saxton, qui a perdu son siège aux élections de l'année dernière, mais ça ne l'empêche pas d'entreprendre cette campagne. Il en a fait l'annonce mardi soir à North Vancouver. Alors, il souhaite succéder à Stephen Harper. Il avait été secrétaire parlementaire pour 2 ministres des Finances. Il a souligné son expérience dans les questions budgétaires lors de sa déclaration. Il a noté également qu'il avait aidé le pays a résisté à la récession de 2008. L'autre candidat à la succession de Stephen Harper, l'autre britanno-colombien conservateur, c'est Rick Peterson. C'est un homme d'affaires bilingue, apprend-on dans cet article. Il brigue également la direction du Parti conservateur et il mentionne notamment dans sa déclaration qu'il souhaite se débarrasser de l'imposition des revenus des entreprises. Donc ça, c'est l'un des points qu'il a soulevé lorsqu'il a annoncé son intention d'entrer dans la course. L'article de Radio-Canada souligne également qu'il souhaiterait un meilleur contrôle de sécurité des immigrants. Etc. C'est sur le portail de Radio-Canada si vous souhaitez en savoir davantage sur ces 2 candidats à la succession de Stephen Harper. Donc, il s'agit de Andrew Saxton et de Rick Peterson, 2 Britanno-Colombiens. Je termine ce bloc provincial avec une nouvelle parue dans la presse aujourd'hui. La manchette « Des investisseurs chinois réclament une plus grande ouverture du marché canadien ». Un groupe de puissants entrepreneurs chinois en visite au pays veut demander à Justin Trudeau de resserrer encore plus les liens d'affaires entre le Canada et la Chine. Et ce groupe s'appelle le China Entrepreneur Club, le club des entrepreneurs chinois. On l'appelle aussi le club des milliardaires. Ils ont rencontré notre premier ministre et ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'ils ont soulevé la taxe qu'a imposée la Colombie-Britannique aux acheteurs étrangers de biens immobiliers dans la région de Vancouver. Cette taxe de 15% entrée en vigueur au début du mois d'août, ne leur plaît pas du tout. Et l'article en fait état. Je vous mentionne encore le titre. Des investisseurs chinois réclament une plus grande ouverture du marché canadien. C'est dans le journal La Presse aujourd'hui. On s'arrête quelques instants pour écouter l'excellente artiste Claude Pelgag, une pièce qui s'intitule Les ferrofluides fleurs. On se retrouve de l'autre côté pour quelques nouvelles du jour. À tout de suite. Claude Pelgag à 16h31 dans Le Débrief. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 20 octobre, bienvenue dans l'émission. C'est le moment de passer aux nouvelles du jour. On commence par une nouvelle préoccupante, inquiétante, qui nous arrive de Saskatchewan. C'est une nouvelle qui est symptomatique de la crise que traversent les différentes communautés autochtones du pays. Une crise qui avait été ignorée et tassée du revers de la main par le précédent gouvernement, le gouvernement de Stephen Harper. Le nouveau gouvernement, celui de Trudeau, a effectivement répondu de plus efficace et de plus de façon plus consciente à ce problème. Donc cette nouvelle qui nous arrive de Saskatchewan, on apprend qu'une fillette autochtone de 10 ans s'est suicidée. C'est en Saskatchewan. Je vous lis des passages de la dépêche de la presse canadienne. Une autre jeune autochtone âgée, celle-là d'à peine 10 ans, s'est suicidée dans le nord de la Saskatchewan. Ça pourrait paraître comme un fait divers à certains, mais en fait, c'est un symptôme de la profonde détresse que vivent des communautés autochtones à travers le pays. L'article de la presse canadienne poursuit, selon le chef Ron Michel du Grand Conseil de Prince Albert, ce plus récent drame est survenu à Deschambault Lake, à environ 500 km au nord-est de Saskatoon. Ron Michel a annoncé la nouvelle mardi lors de l'assemblée annuelle du Grand Conseil qui regroupe une douzaine de communautés des Premières Nations du nord de la Saskatchewan. Plus tôt ce mois-ci, deux adolescentes de Stanley Mission et une autre de Laronge en Saskatchewan se sont enlevées la vie. Elles étaient âgées de 12 et 14 ans. Ron Michel a pressé les délégués de l'Assemblée annuelle du Grand Conseil à discuter avec les jeunes de leur communauté et d'élaborer une stratégie afin de freiner cette vague de suicides. Le gouvernement de la Saskatchewan a indiqué de son côté que des jeunes considérés à risque avaient été emmenés à Prince Albert pour consulter un psychiatre et que d'autres jeunes bénéficiaient d'un soutien psychologique dans leur communauté. Le ministère fédéral de la Santé a aussi annoncé la semaine dernière qu'il financerait en partie l'embauche de 3 thérapeutes pour assurer un suivi psychologique les vendredis et samedis jusqu'à la fin du mois de décembre auprès des jeunes les plus à risque. Selon le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, qui est de la Saskatchewan, le taux de suicide chez les jeunes autochtones est 5 fois plus élevé que celui de la moyenne nationale. Plus tôt cette année, la petite communauté d'Attawapiskak, dans le nord de l'Ontario, avait connu une vague de suicides similaire chez ces jeunes, une vague qui avait fait les manchettes au pays et à l'étranger. Donc un dossier à suivre, ça a une apparence de fait divers, mais en fait, ce sont des nouvelles qu'il faut relayer. Et elles servent à justement éveiller les consciences, à faire comprendre ce qui se passe un petit peu mieux dans les communautés autochtones à travers le pays. On se transporte à l'échelle internationale à présent, on change de perspective, on se transporte en Europe, à Berlin plus précisément. Il y a un sommet des dirigeants, la chancelière Angela Merkel reçoit Poutine, Hollande, Porochenko pour un sommet à Berlin. Berlin accueille ce mercredi, aujourd'hui 19 octobre, un sommet entre l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. Un format de réunion inauguré il y a un peu plus d'un an à Paris pour faire le point sur les accords de Minsk et la situation dans l'est de l'Ukraine. Le conflit entre Russes et Ukrainiens à la frontière dure depuis plus de 2 ans, mais aucune avancée significative n'est attendue durant ce sommet. Sur invitation de la chancelière allemande, François Hollande, Vladimir Poutine et Petro Porochenko se rencontrent à Berlin pour évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk. Angela Merkel l'avoue, il ne faut pas s'attendre à un miracle malgré les efforts diplomatiques de la France et de l'Allemagne depuis plus d'un an. Le cessez-le-feu prévu dans les accords de Minsk n'est toujours pas en vigueur. Et la chancelière Angela Merkel commente ainsi, ça coince à de nombreux niveaux. Alors voilà, c'est effectivement le statut de la région du Donbass, qui est une région séparatiste, et la question d'une loi électorale pour cette région. Ce sont les pierres d'achoppement, c'est la pomme de discorde si vous voulez. Donc les dirigeants vont aborder ces sujets épineux, et il semble que peu d'espoir soit logé dans ce sommet, mais une rencontre vaut sans doute mieux que rien du tout. Donc voilà, c'est dans le journal Le Monde si vous voulez approfondir ce sujet. C'est rapporté par différents médias, donc ce sommet à Berlin, à l'invitation de la chancelière Angela Merkel à propos de l'Ukraine. Denis Lépine vous en faisait mention un petit peu plus tôt dans ses bulletins d'information. C'est ce soir le troisième et dernier débat entre les candidats à la présidentielle, Trump et Clinton. Ce ne sont pas les seuls candidats, il y a d'autres candidats, malheureusement ils ont été écartés par l'organisme qui tient ces débats télévisés. C'est une autre histoire. Alors, on peut retenir que ce débat, cet ultime débat entre Donald Trump et Hillary Clinton aura lieu ce soir à 18h. Donc, c'est dans un peu moins d'une heure. C'est dans un peu plus d'une heure. Et il sera évidemment question de toutes les fuites, de tous les les rebondissements récents qu'a connu cette campagne invraisemblable, d'un côté comme de l'autre. Il sera question des fuites de WikiLeaks pour ce qui concerne la démocrate Hillary Clinton, et il sera bien sûr question des dérapages multiples de la misogynie et du racisme de Donald Trump de l'autre de d'autre part. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, c'est à 18h heure du Pacifique, dans un peu plus d'une heure. On va s'arrêter quelques instants, on écoute un court intermède musical et on va tenter de faire une revue de presse des éditoriaux rapides au retour. À tout de suite. Voilà, c'est le moment de passer à la revue de presse des éditoriaux. J'ai retenu un texte pour vous aujourd'hui. C'est un texte qui paraît dans les pages du journal Le Devoir. C'est un texte qui concerne la lutte à la corruption. C'est signé par Denis Saint-Martin, qui enseigne au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Le texte s'intitule « À quand un fonds de recherche sur le cancer des sociétés ?» Et le cancer des sociétés, c'est quoi? C'est la corruption, indique Denis Saint-Martin dans ce papier paru dans le journal Le Devoir. Il écrit « La corruption tue des milliers d'êtres humains à travers le monde. On dit de la corruption qu'elle est le cancer des sociétés. Mais contrairement à la recherche sur le cancer humain, qui reçoit à juste titre des milliards en financement, l'étude de la corruption ne fait l'objet d'aucun soutien organisé. Le Canada ne dispose pas d'infrastructures de recherche ni de masse critique d'expertise sur la lutte contre la corruption. Les gouvernements multiplient les lois, les organismes et les politiques pour combattre la corruption, mais ils ne disposent d'aucune base de savoir et de connaissances pour évaluer l'efficacité de leurs interventions. Comment combattre un mal dont les causes et traitements demeurent largement inconnus, demande Denis Saint-Martin dans ce papier. Les sommes investies dans la recherche contre le cancer ont produit de grandes réalisations. Un grand bond comparable dans l'avancement des connaissances est aussi possible dans la lutte contre la corruption, écrit-il. Plusieurs institutions de haut savoir dans les sciences humaines et sociales sont capables de relever le défi. Le financement de la recherche sur la corruption se bute cependant à de sérieux obstacles. Aucun chef d'entreprise, de parti politique ou de gouvernement n'aime admettre que son organisation est corrompue. C'est pourquoi le soutien des élites économiques et politiques à la lutte contre la corruption est toujours fragile. Pas nécessairement parce qu'elles sont de mauvaise foi, mais plutôt parce que la corruption coûte cher à la réputation des politiciens et des entrepreneurs. Elle leur fait perdre des votes, du pouvoir et des parts de marché. C'est un article fort intéressant, donc un billet sous la plume de Denis Saint-Martin qui s'intitule « À quand un fonds de recherche sur le cancer des sociétés ?» Et ce cancer, dit-il, c'est la corruption. Voilà, donc c'est dans les pages du journal Le Devoir en date d'aujourd'hui, 19 octobre. On va se rendre à présent à l'interview du jour. Je vous le disais en intro d'émission, oui, à 16h, on reçoit aujourd'hui Régent Beaulieu. En fait, on le rejoint au bout du fil. Régent Beaulieu est chroniqueur et blogueur à Vancouver. Il s'intéresse vivement aux questions linguistiques, aux droits et à l'accès à l'éducation en français, en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. J'ai pu lui parler aujourd'hui des suites de ce jugement rendu par la Cour suprême de Colombie-Britannique le mois dernier dans le dossier de l'éducation en français, le jugement Russell, comme on l'appelle. Alors, on a parcouru un petit peu le sujet. On a évoqué la possibilité d'un appel de la part du Conseil scolaire francophone. Est-ce que cet appel va être porté? Est-ce que la cause ira plus loin dans le système judiciaire? C'est à suivre. On écoute cette interview dans quelques instants à l'antenne de CILS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief. À tout de suite. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. On parle d'éducation en français. C'est un sujet qui revient fréquemment. Le mois dernier, vous vous en souviendrez, chers auditeurs, un jugement important a été rendu par la Cour suprême de Colombie-Britannique dans le dossier de l'éducation en français. C'est un jugement en demi-teinte, mitigé, qui a partiellement satisfait la communauté francophone de la province. Le CSF a estimé qu'il avait remporté une victoire, le Conseil scolaire francophone. Donc, est-ce que cette victoire est véritable? Est-ce que le Conseil scolaire ira en appel pour avoir un meilleur jugement? C'est à suivre. J'ai au bout du fil Régent Beaulieu, qui est un chroniqueur et blogueur qui s'exprime fréquemment sur les questions des droits linguistiques, sur l'accès à l'éducation en français. Il est basé à Vancouver. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Beaulieu.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
Alors, on pourrait peut-être commencer par se demander si le CSF va porter cette cause en appel. D'après vous, quels sont quels seront les développements?
Je vais reprendre un peu ma vieille rengaine. Aussi longtemps qu'on ne comprendra pas comment le 17 millions de dollars qui a été le coût du recours a été financé, la raison officielle c'était des fonds de tiroir, des fonds de budget, des budgets de contingence. Aussi longtemps qu'on n'aura pas une explication sur ce financement-là, ça va être extrêmement précaire de continuer, spécialement si ces frais-là ne sont pas remboursés en totalité ou même en partie. Alors, il est pas sûr du tout que, avant que le CSF puisse prendre sa décision d'aller en appel, que le remboursement partiel sera engagé. Donc, il pourrait donner un nouveau fonds de tiroir pour continuer en cours d'appel en Colombie-Britannique avant de se rendre en Cour suprême. On peut imaginer les coûts à venir sont énormes. Beaucoup de parents d'APE, le syndicat s'est objecté et je crois que le CSF est dans une situation très pénible présentement. Ils se sont embarqués là-dedans et c'est pas évident du tout comment ça va pouvoir continuer.
Donc, 17 millions de dollars, c'est le coût de cette cause qui s'est étendue sur plusieurs années. Vous dites que le syndicat s'est opposé. De quel syndicat s'agit-il? Et ils se sont opposés à quoi exactement? À l'appel?
D'accord, je m'explique davantage. Alors, le syndicat des enseignants, à travers sa présidente Sylvie Listel, depuis un an, depuis deux ans, a un peu grogné au sujet de ces dépassements de budget du recours judiciaire qui devait avoir vraisemblablement des conséquences dans les classes, dans les services offerts, dans le qu'est-ce que nos jeunes pouvaient faire. Plus récemment, Mme Listel a également insisté et demandé au conseil d'administration d'expliquer ce financement et la réponse du CSF a été une réponse évasive encore une fois. Rien de nouveau de ce côté-là.
Donc, dans ces circonstances, vu l'opacité du financement de la cause, le syndicat et Mme Listel sont d'avis qu'il faudrait renoncer à faire appel conséquemment.
Je ne crois pas qu'elle s'est exprimée à ce moment-ci exactement sur cet appel-là. Personne ne s'est exprimé publiquement. Mm-hmm. Peut-être c'est le moment de faire le pont avec l'article ce matin de Julie Landry sur... peut-être que je peux te laisser faire le résumé, si tu veux, Alex, auprès de nos auditeurs.
Effectivement, vous avez attiré mon attention sur un article publié sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. C'est un article qui s'intitule « Les écoles francophones en Colombie-Britannique » peu utile pour freiner l'assimilation, point d'interrogation. Donc, c'est un article qui reprend d'entrée de jeu l'argumentaire du CSF qui avait été mis de l'avant lors de ce procès. Le Conseil scolaire francophone a argumenté dans son procès qu'il l'opposait à la province de Colombie-Britannique qu'un système adéquat d'écoles francophones contribuerait à ralentir l'assimilation. Donc, est-ce que effectivement un système adéquat d'enseignement en français contribuerait à freiner l'assimilation? Il me semble que la réponse va de soi. La réponse serait oui. Mais la juge Russell peut-on lire dans cet article sous la plume de Julie Landry, la juge Russell estime que c'est perdu d'avance, si on comprend bien en substance ce qui est écrit. Il n'y a pas d'espoir pour la communauté francophone, quel que soit l'état de du système d'éducation. Donc, ça, c'est peut-être un aperçu de la pensée de la juge Russell, peut-être.
Si je peux intervenir, Alex.
Oui, allez-y.
C'est un article de fond qui est publié quelques semaines à la veille de cette décision du CSF. L'article de fond de Julie s'interroge sur cet argument de Madame Russell. Il met en relief par rapport à une opinion d'expert qui nous vient de Maître Doucette, qui enseigne toute cette la constitutionnalité de la charte, etc., reliée au droit de en matière d'éducation. Et bien sûr, monsieur le maître Doucette, tel qu'interviewé par Julie Landry, s'opposait noir sur blanc à l'argumentation de madame Russell. Alors l'article était publié ce matin, a suscité quelques commentaires, plusieurs Québécois qui essaient de récupérer une triste situation à des fins de propagande souverainiste. Je regrette, j'ai commenté, j'ai été un des rares, je crois que le seul, encore une fois, à commenter sur le site web de Radio-Canada, que c'est déplorable qu'aucun francophone, aucun britanno-colombien n'a été consulté. On nous a pas demandé quelle était notre opinion, des gens qui ont une expérience du terrain, et on couvre l'opinion du juge et on couvre l'opinion d'un juriste au Nouveau-Brunswick qui vit dans une situation bien différente. Alors, je regrette finalement que peut-être une des raisons pour laquelle les francophones s'assimilent, que ce soit non seulement les plus jeunes ou les moins jeunes, mais c'est que finalement, on a des lobbies hors contrôle et un appareil judiciaire finalement qui se foutent finalement de ce que les préoccupations des francophones ici. Alors peut-être qu'il faudra davantage les consulter et peut-être qu'il y aura un suivi d'affaires publiques à Radio-Canada. Pour demander aux gens d'ici, alors pourquoi pensez-vous que les francophones francophones jeunes et moins jeunes s'assimilent et que pensez-vous de cette argumentation du CSF? Est-ce que l'argumentation du CSF vraiment vous l'appuyez complètement? Est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle les francophones s'assimilent ici? Peut-être en partie, mais certainement pas en totalité.
Bon, en partie, oui, sans doute. Et là, vous parlez de lobbies. Qui sont les lobbies actuellement en présence et que font-ils?
Ben, on a le lobby des juristes à travers le pays, qui est un lobby énorme. Alors, si on regarde dans la feuille de route, le budget alloué à la sphère de la justice, ce budget-là, il est énorme. Il y a beaucoup de chaires académiques à travers le Canada qui essaient de former des nouveaux juristes pour aller dans ces causes-là. Et finalement, ces causes-là, ça entretient un système, souvent du côté de la province également, qui alimente ces cabinets d'amis avocats. Donc finalement, cette cause-là, elle est récupérée par les gouvernements provinciaux à travers le Canada. Et ces lobbies-là, finalement, deviennent malsains à certains moments. Je regrette qu'on ne soit pas capable de voir au-delà de ces lobbies pour essayer d'améliorer les choses.
Donc c'est lucratif pour certains cabinets de s'intéresser aux causes touchant les droits linguistiques, finalement.
Je crois que oui. Il faudrait quand même pas être complètement cynique. Il y a probablement un cas valide ici, mais quand on parle des quantités d'argent qui ont été engagées là-dedans, c'est absolument incroyable. Alors, imaginez-vous si le 17 millions de dollars avait été consacré davantage aux classes, peut-être à même comprendre pourquoi nos jeunes s'assimilent, nos moins jeunes s'assimilent. Alors, peut-être qu'on serait en bien meilleur état plutôt que de consacrer ces argents-là à nos cabinets d'avocats.
D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres lobbies qui exercent leur pouvoir d'influence à part celui des juristes?
Je dirais que le lobby des fédérations à travers le Canada, on parle de la FCFA, on parle de la FFCB, a largement appuyé. Je dirais que le lobby académique, qui est également important au-delà dont on parle des chaires académiques ici, est un lobby qui a également appuyé ça. Alors, il y a des colloques, des gens qui se rencontrent en colloque, qui parlent de ces causes-là, puis c'est un peu incestueux. Ce sont probablement les lobbies les plus importants. Et ce qui est laissé pour compte, finalement, c'est ceux qui ne sont pas dans les lobbies, qui ne sont pas financés, qui n'ont pas accès à ce financement-là de patrimoine canadien et qui, finalement, s'assimilent. C'est ça qui arrive.
D'accord. Donc, on a des organismes qui adoptent des comportements, disons, lobbyistes avec le temps et qui, ils ont des intentions initiales bonnes, mais finalement, leur action finit par être néfaste. C'est du moins votre avis.
Je pense, oui. Je suis pas le premier à le dire ici, là, ça a été depuis longtemps, ces recours judiciaires-là ont épuisé les francophones à travers le pays et on a épuisé les francophones, on est en train d'épuiser nos médias, on est en train d'épuiser le financement public, on est en train d'épuiser le financement de nos écoles. Alors, à un certain moment, il faut rapporter ses pantalons et démontrer du leadership à quelque part.
Quel est votre souhait? Est-ce que vous croyez que le CSF devrait interjeter appel, selon vous?
Je crois que le CSF n'est pas dans une situation présentement pour continuer ainsi. Je crois qu'il doit y avoir une réflexion. Et je crois que peut-être le gouvernement provincial, le ministère de l'Éducation, peut-être serait davantage réceptif si on cessait pour le moment cette attitude de poursuite. Et retournions au whiteboard, au tableau blanc, pour vraiment réfléchir comment améliorer les choses. Je pense qu'il y aurait plus de mérite à une telle approche.
D'accord. Et puis en plus, il y a la menace possible, le danger que le gouvernement ait l'intention de mettre certains organismes sous tutelle, par exemple le CSF, vu sa situation financière précaire, pourrait faire l'objet d'une prise de contrôle. Est-ce que ça demeure toujours possible, ça, dans les cartes?
Je dirais que présentement, si vous avez suivi l'actualité au sujet du Vancouver School Board, il y a probablement des beaucoup plus gros chats à fouetter. Alors, oui. Quand on parle du CSF, finalement, c'est une petite affaire de rien du tout, hein, des budgets finalement qui sont assez mineurs comparés à l'envergure des problèmes qu'il y a en matière d'éducation privée, publique, en Colombie-Britannique. Particulièrement, on est une petite souris de rien du tout. Il y a des gros éléphants et vraiment, il va falloir être un peu plus articulé, intelligent dans notre approche comme à titre de souris.
D'accord. Bon, mais ça jouera peut-être en faveur du CSF. Qui sait, le fait que d'autres problèmes plus pressants soient dans l'agenda du gouvernement. Régent Beaulieu, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chroniqueur du côté de Vancouver. Vous êtes très actif sur Twitter. On vous retrouve sur Twitter avec l'adresse le canard quoi. Donc, @lecanardquoi. Un grand merci d'avoir partagé vos impressions, votre réflexion, votre analyse sur les retombées du jugement Russell. Et on se reparlera sans doute dans les prochaines semaines si le CSF décide de faire appel.
À la prochaine.
Merci, Monsieur Beaulieu. À bientôt. C'était Régent Beaulieu. Il est presque 17h, 11 degrés sur Victoria avec pluie intermittente au cours des prochaines heures. Merci de nous avoir suivis dans cette heure d'information à l'antenne de CILS-FM 107,9. Alexis Gagnon au micro. On se laisse sur cette pièce de la formation JAG intitulée Mercure. Bonne soirée à tous. À demain.